Bonjour, voici un enregistrement différent de ceux que vous avez pu écouter sur transmission, puisqu'il ne s'agit pas d'une lecture d'un de mes textes par les formidables comédiens que vous avez l'habitude d'entendre, mais c'est un entretien avec Nicolas Pagnol. Nicolas Pagnol, le petit-fils de Marcel, qui va nous parler de transmission, bien entendu, et des voitures, de la technologie, du rapport de Marcel avec les découvertes, les inventions du début du XXe siècle. Il y a plein d'informations incroyables. Merci beaucoup, Nicolas Pagnol. Quand on écrit en Provence, et encore plus à Marseille, on a toujours un peu de Pagnol en tête, faute de l'avoir sous la plume. Si on aime les histoires, si on aime l'idée de transmission, il n'est jamais loin. À propos de transmission, comment ne pas penser à son petit-fils qui œuvre merveilleusement à faire vivre sa mémoire à travers le magnifique patrimoine qu'il nous a laissé. Bonjour, Nicolas Pagnol.
Bonjour, mon cher Bruno.
On croit tout connaître de Marcel Pagnol, mais il me semble que son rapport aux outils et à la modernité est plutôt singulier. Tu parles parfois d'un scientifique romantique à propos de Marcel Pagnol.
Oui, c'est exactement ça, mais je crois qu'il faut remonter un petit peu à la genèse de tout ça. Il faut pas oublier que le grand-père de Marcel, André Pagnol, était maître compagnon tailleur de pierre.
D'accord.
Et Marcel a sans doute vu très souvent son grand-père. La massette à la main avec le burin dans l'eau. D'ailleurs, cette massette était sur son bureau. Elle lui servait de presse-papier. Elle sera présentée, bien sûr, au musée qui va voir le jour. Donc, pour Pagnol, le travail manuel, l'outil, est très important. D'ailleurs, il dira qu'il était un artisan du cinéma. Et puis, il y a aussi l'éducation paternelle de Joseph Pagnol, le hussard noir de la République, qui, d'ailleurs il l'écrit dans la gloire de mon père, l'emmener en bas dans la cave, bricoler, faire de la menuiserie, lui parler des microbes. On venait de découvrir les microbes qui étaient, d'après le petit Paul, comme des petits tigres qui étaient prêts à nous sauter dessus. Donc Marcel, il grandit vraiment dans une période où on a un essor dans la connaissance scientifique phénoménal, le début du XXe siècle. Voilà. Et toute la première partie du XXe siècle, où la science sera considérée comme un vecteur d'émancipation sociale et personnelle. Et donc c'est très important pour lui, parce que la science rapproche les classes sociales, gomme les différences, et permet à tout un chacun d'être heureux, d'avoir une vie meilleure, de s'émanciper. Et en cela, par exemple, on peut faire un rapprochement avec cette fameuse voiture qu'il a inventée en 1934, je crois, enfin qu'il a tenté d'inventer, qui s'appelle la Topazette, en référence à sa pièce Topaz, bien sûr. Alors, c'était une voiture qui avait trois roues, trois places, trois chevaux, 30 km/h, 3 litres au 100 et trois tonneaux, malheureusement, lors de son essai. Mais qu'est-ce que ça nous raconte, ça? Eh bien, ça nous raconte que avant l'apparition de la coccinelle, de la Volkswagen, la voiture du peuple, Pagnol y avait déjà pensé. Enfin, je ne dis pas que Pagnol était à la base de la Volkswagen ou quoi que ce soit, pas du tout, mais qu'on était déjà dans ce même dynamisme. Ça veut dire l'invention, le progrès technique et technologique au profit du plus grand nombre. Et il y a un rapport avec son œuvre, c'est que l'œuvre de Marcel est d'une qualité littéraire foudroyante, avec un style qui paraît simple, qui ne l'est pas du tout, mais en tout cas qui est voulu, ce style, pour que son œuvre soit disponible, compréhensible par le plus grand nombre, que vous ayez votre certificat d'études ou que vous soyez polytechnicien. Et chacun pourra y trouver quelque chose. Ça, vraiment, je pense qu'on le doit à l'éducation que son père lui a donnée. Vraiment l'instituteur de la Troisième République, hein, pétri de morale et de progrès social.
Oui, c'est des valeurs qui sont transmises dans l'ensemble des œuvres de ton grand-père. Systématiquement, on entend cette petite musique derrière, hein, qui donne toujours ce lien social, qui donne toujours cette liberté. Voilà, c'est très, très, très typique, oui.
Et alors, ça, c'est la manière dont il a appliqué ton intérêt pour les nouvelles technologies, la science. On peut aussi parler, bien sûr, du cinéma parlant. Il est un des premiers à défendre le cinéma parlant en Europe. Et d'ailleurs, il va faire développer des systèmes d'enregistrement par Philips pour lui, parce qu'il n'était pas content des systèmes Western électriques. Mais on peut aussi aller jusqu'au cinéma couleur en 1946, où il tourne La Belle Meunière en couleur. Alors, le film n'est pas un chef-d'œuvre, mais pourquoi fait-il ce film? C'est parce que les Américains, les Russes et les Allemands refusent de nous vendre la technologie couleur et même de nous vendre du négatif couleur. Donc la France ne peut plus faire de films, ne peut pas faire de films couleur. Ces gens-là, ces pays-là, voulaient étouffer, tuer la culture française. Et Pagnol va s'associer avec deux ingénieurs opticiens, les frères Roux, qui vont inventer avec lui un objectif, lui va financer un objectif que l'on peut placer sur une caméra avec de la pellicule noir et blanc pour faire du film couleur. Donc, encore une fois, la technique, là, va l'intéresser toujours au profit de la culture française, au profit du plus grand nombre. Voilà, bon, ça va être un échec total, mais en tout cas, c'est très intéressant à voir. Mais il a aussi des lubies. Il va inventer, alors ça peut paraître complètement absurde, mais le boulon indéboulonnable.
C'est très
Alors,
utile, ça. C'est très
oui,
utile. J'en ai plein.
il va déposer un brevet en 1924 ou 25. Bon, après, il va le laisser tomber. Et j'ai découvert il y a peu de temps que ça existe vraiment, le boulon indéboulonnable. Pourquoi boulonner si ce n'est pour pouvoir déboulonner par la suite? À ce moment-là, autant riveter. Ben, je sais pas trop à quoi ça sert. Tu me dis que tu en as chez toi.
Ça sert à contrôler le serrage, je pense. Ça doit servir à
D'accord.
mettre à une certaine distance, voilà, à vérifier au point de vue
D'accord.
des après de
Et donc,
techniciens plus
c'est
qualifiés.
lui qui l'invente. On a son brevet déposé à l'INPI de l'époque. C'est 1923 ou 1924. Je sais pas. Donc, il était vraiment très intéressé par la mécanique. Par exemple, en 1942, lorsqu'il vend toute son affaire à la maison Gaumont, parce que les Allemands veulent absolument qu'il travaille pour eux et lui n'a pas envie, eh bien, il va acheter une propriété horticole pour y faire des œillets et la source est perdue. Ça te rappelle sans doute une fameuse histoire, hein, Jean Florette, des sources. C'est peut-être, ça fait partie de sa vie, de son inspiration, c'est cette expérience de vie qu'il a eue. Et pendant des années, il va chercher la source et il va construire une sonde avec un système de bélier qui actionnait un trépan. Et il va breveter ce système de bélier. Il y a une magnifique archivina qui existe à ce sujet. Alors, on a toujours ce système. On l'exposera, bien sûr, au musée. Mais encore une fois, il va inventer quelque chose. Il adorait travailler avec ses mains. Vraiment, il adorait ça. Pour lui, le travail manuel, le grand et beau geste, je crois que c'est Nietzsche qui en parle, le grand geste, c'est-à-dire bien faire et faire beau. Et il l'a fait autant dans son écriture que dans ses lubies, quoi. Mais il y a un autre outil aussi dont il faut parler, c'est son porte-plume. Parce que Marcel n'écrivait pas avec n'importe quel porte-plume. Il allait couper des roseaux dans sa propriété de Saint-Tropez, il les faisait sécher, il fallait qu'ils aient un certain diamètre, il les évidait au bout, il mettait un buvard dedans et il mettait sa plume. C'était un outil. Ce n'était plus un stylo. Ce n'était plus un porte-plume standard. C'était lui qui l'avait fabriqué. C'était son outil.
Bien sûr. Est-ce que tu sais quelque chose des voitures qu'il a utilisées dans sa vie?
Ah oui. J'ai quelques factures de réparation de Citroën dès 1930, 29, je pense. Bon, il y a une voiture très célèbre qu'il a eue. Qui a joué dans le film Le Schpounz, c'est une Peugeot 604 Eclipse avec une carrosserie faite sur mesure pour lui par un carrossier fameux qui s'appelait Pourtout. Et cette voiture est intéressante parce que c'est la première voiture au monde avec un hardtop électrique qui était un brevet d'un certain monsieur Paulin, qui était un dentiste, je crois. Et après, c'est Peugeot qui a racheté son brevet et Marcel a eu une splendide voiture. Voilà, il aimait la mécanique. Il a eu une Panhard aussi dans les années 50, magnifique, énorme voiture américaine. Voilà. Et à la fin de sa vie, roulait en Citroën, je crois, DS, je
Ah
pense. Il
ouais.
meurt en 74, je pense que la DS existait déjà.
Donc, il existe encore, c'est une voiture des années 50, la DS. Ouais.
Voilà.
C'est une
Et
voiture
alors, mon
mythique.
père me racontait que les portes arrière restaient fermées parce qu'elles étaient reliées à l'intérieur par une ficelle. Et voilà. Et pour
D'accord.
tourner dans les collines, bien sûr, il avait une Jeep Willys que nous avons toujours, et puis un Alftrak, voilà, pour vraiment rouler avec tout son matériel dans les collines de Provence pour installer ses caméras, quoi.
Et oui, pour tourner en plein air, ce qui était quand même une particularité, enfin exceptionnelle, parce que tourner en plein air, ce qu'il voulait tourner, lui, c'est terrible, quoi. Enfin, c'est un
Il n'y avait que
travail
lui, oui,
colossal, il n'y a que lui pour faire
il n'y
ça.
avait que lui, oui,
Ouais,
effectivement,
ouais,
effectivement.
bon.
Donc voilà,
Ouais.
oui, Marcel a eu un rapport à la voiture, hein, il aimait les belles voitures, il en a eu quelques-unes, mais il n'a jamais écrit à ce sujet.
D'accord. Oui, c'est
Voilà.
jamais un personnage de de ses œuvres. On voit pas apparaître de voiture comme personnage, à part peut-être, comme tu dis, un peu dans le
Le
Schpouse.
Schpouse.
Voilà.
Voilà, mais pas plus. Ou bien, bah, toujours dans le Schpoust, d'ailleurs, au début, il y a cette fameuse voiture brimballante qui saute comme ça
Ouais.
avec toute l'équipe de cinéma qui est dessus. Mais là, c'est un élément comique
Ouais.
de la scène. Oui, non, dans sa vie, il a aimé les voitures. Il a eu de très belles voitures. Mais ce n'est pas quelque chose dont il a. C'est un marqueur social, je pense.
D'accord.
Voilà, c'est
Ah oui.
surtout un marqueur social, la réussite. Voilà.
Ok. Bon, bah écoute.
Mais effectivement, il y a un... Ben, ma grand-mère me racontait, lorsqu'ils habitaient avenue Foch à Paris, dans ce somptueux hôtel particulier, alors elle lui demandait, bon, tu vas faire les courses ce matin, Marcel, je te fais la liste des courses. Et elle dit, d'accord, je vais aller au bazar de l'hôtel de ville. Là, elle savait que c'était foutu, parce que au rez-de-chaussée, au sous-sol, pardon, du bazar de l'hôtel de ville, tu as une quincaillerie qui est peut-être la plus grande de France,
Ah oui,
avec
c'est
des outils,
magnifique. Il y a tout.
tout ce que tu
Ah,
peux
c'est
trouver
incroyable.
pour le bricolage,
C'est
là.
fantastique.
Donc Marcel allait au bazar de l'hôtel de ville et il revenait avec des marteaux, des tournevis, des rondelles, tout ce que tu veux, mais rien, rien pour le dîner. Et donc, on va dire que par exemple, au dîner, il recevait le prince Rainier qui habitait à côté, c'était la maison à côté de chez eux à Paris. Ça, c'est ma grand-mère qui nous raconte. Le prince Rainier s'assoit et malencontreusement, un tournevis mal placé le blesse en haut de la cuisse, quoi. Parce que Marcel avait laissé traîner ça dans le canapé. Voilà. Et il y en avait partout dans la maison.
Ah oui, d'accord.
D'ailleurs, au rez-de-chaussée, il y avait un très bel établi de menuisier, il y avait une forge, il y avait, enfin, voilà, il a toujours. Toujours bricolé, Marcel.
Bon, bah écoute, grand merci. Tu m'en
Mais je t'en
racontes
prie, c'est
plein.
moi qui te remercie.
Je me permets d'apporter une petite précision qui vient compléter ces belles informations. Grâce à un article de Nice Matin paru le 21 avril 1974, soit juste quelques jours après le décès de Marcel Pagnol, on apprend qu'il n'était pas propriétaire d'une Panhard, mais d'une Packard. Alors c'est effectivement, c'est à peu près la même orthographe, qui est bien, elle, une voiture américaine. Il avait fait poser sur cette voiture des plaques CC pour corps consulaire, après que le prince Rainier l'ait nommé consul de Monaco au Portugal. Encore un grand merci à Nicolas Pagnol pour ce bel échange.